Cube Radio.
Alors, écoute, c'est la première fois que ça arrive de toute l'histoire de Devine qui vient souper. On a un invité qui est annulé, mais pas annulé parce qu'il nous aime pas ou que... écoute, deux choses. Premièrement, la mère de sa blonde est en train de vivre ses dernières heures. Donc, il nous a dit, il nous a appelé d'abord en disant « je vais arriver tard ». Puis après, il nous a appelé en disant « j'ai fait un flat ».
De toute façon, la première raison était suffisante. C'est la première fois qu'on fait un EQVS avec seulement un invité.
Un solo au lieu d'un duo.
Mais c'est un invité de taille qui est adoré par les Québécois, qui est super aimé, un des comédiens les plus populaires actuellement.
Moi, j'ai beaucoup de mes chums de filles qui vont être jalouses de moi ce soir parce qu'on reçoit Patrice Godin. Puis c'est vraiment intéressant parce que dans District 31, il jouait le rôle du vilain Yannick Dubois. Mais tu sais, il est dans plein de séries, il est dans Rupture, il est dans plein d'autres affaires et tout. Mais c'est vraiment un personnage qui a marqué le Québec, un peu comme, mettons, Jean-Paul Bello, tu sais, dans Les Dames de cœur, là, le gros macho, ou Séraphin, à l'époque. Tu sais, des personnages que les gens haïssent. Là.
Dans l'histoire des Pays d'en haut, c'est ça.
C'est Séraphin, puis Donalda
accousait, puis Séraphin était très cheap, puis Donalda avait du fil blanc, puis elle aurait aimé donc ça, avoir du fil de couleur des fois, parce qu'elle accousait tout le temps avec du fil blanc, et les gens envoyaient des boîtes de fil de couleur
à
Radio-Canada pour Donalda. Ils disaient, c'est pour Donalda, c'était pas Séraphin, là, on envoie ça à Donalda.
Moi, je ne crois génial, pas ton histoire. Je trouve que c'est une histoire qui est cousue de fil blanc.
Oh.
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 Mais la raison pour laquelle aussi ça va être intéressant de recevoir Patrice Godin, entre autres, c'est que c'est un gars qui, il y a 10 ans seulement, a commencé à s'entraîner. Au début, il faisait des petits jogging, des 5 km, après ça, un demi-marathon, après ça, un marathon, après ça, des ultra-marathons. Et nous, maintenant, on est deux athlètes.
On a ça en commun, lui et moi. Donc, il est super, super en forme. Il fait des ultra-marathons. Je ne sais même pas c'est quoi un ultra-marathon.
Courir, donc, pendant 85 heures de suite.
Tu sais, c'est quoi ma vision de ça? Hein?
Oui, c'est que c'est des gens qui sont complètement...
C'est
une drogue par une autre.
Non, mais c'est des accros, c'est des dopés.
J'ai une question très importante. La veste en cuir ouverte ou fermée? Comme ça?
C'est le genre de question qu'une minette pose avant de rencontrer quelqu'un qu'elle veut t'aider. Donc, tu rencontres quelqu'un que tu vas interviewer, donc tu t'en fous qu'elle soit ouverte ou fermée.
Non.
Tu dois poser la question à une de tes amies ou à Patrice Godin. Tantôt, je rencontre Richard ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on travaille comme des fous. Est-ce que ma veste devrait être ouverte ou
Mais
fermée?
Mais tu dis
Richard?
N'importe quoi,
c'est
Richard Martineau.
Non,
je te demande. Au contraire, je te demande ton opinion de toi parce que t'es super bon. C'est important de dire Richard est un excellent styliste pour femmes.
Ouais.
Et même quand on a commencé à sortir ensemble, tu savais c'était quoi ma taille et tu m'avais été allé dans un magasin et t'as acheté une robe.
C'est ouvert parce que.
Ouais. Okay, bon, tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que tu disais. Comment ça va?
Et toi?
Ça va? Je pense qu'on s'est parlé, bon, évidemment, une fois au téléphone,
oui.
C'est ça, je t'ai interviewé. Mais sinon,
c'est la première fois qu'on
se connaissait pas. On se connaît par écran interposé, c'est sûr.
Et t'es tellement important, t'es tellement un comédien unique, aimé des Québécois qu'on a décidé que c'est rien que toi ce soir. Absolument, vous êtes deux.
C'est un honneur.
T'es comme un deux pour un.
Quel chanteur chantait le pape du rap?
Le pape du rap?
Non, qui était dans les cathédrales, qui était dans...
Daniel Lavoie.
Daniel Lavoie, oui.
Et tu le fais de Daniel Lavoie? Tu ressembles un peu?
Non, c'est vrai,
il ressemble à son fils.
Ben, je suis adopté, peut-être qu'il ne sait pas, puis que... Non, je ne sais pas. Je ne suis pas le fils de Daniel.
Il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose de Daniel Lavoie, son sourire. C'est la première fois que je vois personne.
C'est vrai, écoute, veux-tu enlever ton manteau?
Enlever ça,
veux-tu t'installer?
Enlever ça.
Est-ce que, parce qu'il y a un an et demi, le gouvernement a dit on ouvre les livres?
Ben, j'ai fait la demande. Du coup, j'attends.
Oui.
J'attends ça. Mais je pense que c'est long, hein, c'est le processus.
Et pourquoi c'est si important de savoir?
C'est pas tant important, je te dirais.
Pour des raisons de santé, pour connaître
Je l'ai fait avec. Je l'ai fait avant. En fait, j'ai passé des tests. À un moment donné, j'ai eu une grosse panique de faire des crises cardiaques. J'ai fait l'anxiété très forte par rapport à ça. Au début des années 2000, j'ai rencontré ma blonde, on voulait avoir des enfants. Donc, j'avais pas de background génétique puis tout ça. Fait que je suis allé en faire des tests en, en médecine nucléaire pour le cœur. Puis ça, ça m'a rassuré. Puis après ça, ben, j'ai réglé mes bébites dans ma tête pour passer à travers.
C'est bon.
Fait que ça, je sais, puis je suis en forme, là. Je pense que je me suis assez prouvé. Fait que là-dessus, génétiquement. Non, je pense que c'est peut-être avec l'âge, en vieillissant, avec mes enfants, savoir si j'ai des demi-frères, demi-sœurs, mais rencontrer mes parents comme tels pour savoir pourquoi. Moi, ça me...
Ah, les deux parents, c'est pas là.
Non, je sais rien.
Non. Non, parce que c'est ça. Alors, l'ouverture des dossiers, c'est que le gouvernement, il y a un an et demi, a dit, on va ouvrir les dossiers et vous allez pouvoir voir le nom qui est inscrit au dossier. Donc, des fois, il y a juste le nom de la mère puis c'est marqué de père inconnu. Dans certains cas, les deux noms sont marqués. Et le gouvernement est dans l'obligation de donner le nom et un moyen de les rejoindre.
J'ai déjà eu, il y a longtemps, la première fois que j'ai fait une demande à la fin des années 80, ma blonde à l'époque m'avait dit « Ah, tu devrais. » Puis bon, je fais les demandes au service social, je suis Koutimi. Tout ce qui était important, c'était biffé, là, tu sais, c'était
caviardé.
Fait que c'était, mon nom, c'était bébé, puis ma date de naissance, mais tout ce qui était pas le nom du médecin, fait que, tu sais, tu dis « Ben, pourquoi vous m'envoyez ça? »
Ça n'a rien. Ça n'a rien.
Oui, absolument. Oui.
Alors, question, est-ce qu'un athlète comme toi boit un petit verre de vin, et puis deux, puis trois, puis quatre, OK?
Faut même que tu fasses attention, l'athlète.
Tu te lèves à quelle heure?
4 heures.
Là, ces temps-ci, je me lève à 4 heures.
4 heures?
4 heures, oui.
Pourquoi? Qu'est-ce que tu as
fait? Pour écrire. J'écris le matin.
Ah, t'écris le matin?
Moi, de 4 à 7, pour moi, c'est ma bulle parfaite.
Mais dans le fond, c'est drôle parce qu'il y a plein de terminologies qu'on utilise pour l'écriture qui ressemblent à la terminologie qu'on utilise en sport, tu sais, la discipline, des trucs comme ça. Mais tu sais, un marathon d'écriture, tu sais, il faut avoir du souffle, deuxième souffle, tu sais, il y a plein de terminologies.
Quand tu commences un marathon, on va se tenir au marathon, là. Tu commences un marathon, puis là, tu cours, puis hey, ça va bien, tu t'es bien entraîné, puis t'es comme... T'es en forme, puis ça roule, puis là, t'écris, t'as ton idée, puis ton ah oui, puis là, je vais aller là, puis ça va se développer comme ça, puis là, t'arrives à 25, 30, non, c'est plus le fun, c'est pas le fun, puis j'arriverai jamais, t'as un point de côté, t'as des crampes, tu te dis, j'y arriverai jamais, c'est impossible.
C'est drôle parce qu'il y avait une entrevue l'autre jour avec Michel Tremblay, et il expliquait que lui, la page critique, c'est la page 100. S'il arrive à se rendre à la page 100, il sait qu'il a un roman. Si, avant la page 100, il y a de la difficulté, des fois, il va le prendre, puis il va le laisser de côté, puis le reprendre 15 ans plus tard. Lui, c'est la page 100.
C'est drôle parce que moi, je commence souvent, mais là, je suis en train de travailler sur la suite de mon dernier, de Sauvage Baby, puis les trois livres, Territoire inconnu, Boxer la nuit, Sauvage Baby, les trois fois, à peu près autour de 100,
ah.
À un moment donné, j'imprime, puis je mets ça de côté, j'efface, parce que là, il y a quand même des bonnes affaires là-dedans, et je repars à zéro.
Tu niaises-tu?
Non.
Tu recommences à zéro?
Mais je garde. Là, des fois, je fais, OK, ça, ce boulot, il était bon, je vais... En tout cas, je l'aimais, ça s'intègre, mais l'idée est là, j'ai comme écrit, on dirait que je fais pas de plan, mais on dirait que mes 60, 80, 100 premières pages, c'est une comme sorte un de plan, comme un brouillon. Puis là, à partir de là, ben là, je fais comme un jour au bloc. Là, je fais, OK, cette affaire-là que j'ai écrite à la page 30, je vais ouvrir le roman avec ça. Puis...
C'est fou, ça.
Puis tu vois, je savais pas que Michel, il y avait cette...
Oui, c'est ça, c'est la page 100 là, qui est vraiment le... Tu sais, exactement comme dans une course, t'as à un moment donné un stade où...
Tu sais que tu vas
arriver. Faut que t'arrives à passer par-dessus cette étape-là qui est comme une sorte d'obstacle. Je sais pas comment ça s'appelle exactement en course.
Pourquoi t'as commencé à écrire des romans?
Quand j'ai lu 37.2 le matin, Philippe Gilles, sa voix intérieure, son style, ça m'a allumé. J'ai lu le livre avant de voir le film. Et ce que j'aime, et Philippe Gilles, il était comme mon prof de littérature.
C'est fou, hein?
Donc, chaque fois qu'il nommait un écrivain, j'allais le lire. Kerouac.
Mais c'est vrai que c'est Bukowski. Bon, Philippe Gilles.
OK, donc tu faisais des hyperliens. Comme dans son livre, il faisait un lien.
Là, Gilles parlait de John Fante. John Fante parle d'un tel. Henry Miller parle d'un tel. De Mishima, là, j'étais allé. Je me suis mis à écrire beaucoup. Et je me suis cherché. Et là, j'avais l'impression d'imiter beaucoup Philippe Gilles, naturellement. Et quand j'étais à l'École nationale de théâtre, moi, j'ai un tempérament, je pense, plus introverti que... je suis clairement plus introverti qu'extroverti. Donc, j'ai un tempérament plus d'écrivain. Et à l'école, ça me faisait du bien. Je me retirais, j'écrivais. C'était comme ma porte de... Puis je suis très sauvage aussi. Je suis comme quelqu'un
parce que le métier de
comédien... Je trouvais ça dur d'être toute la gang. On a commencé 12, on a fini 9. On était tout ensemble. C'est quasiment 6 jours par semaine. très intense, des grosses journées, c'était très le fun. Puis moi, j'avais besoin de me retrouver, ouais. Puis c'est par l'écriture. Puis ce qui me manquait dans les années, jusqu'à mes 40 ans, c'était la discipline. Puis c'est grâce à la course, étrangement. Moi qui écrivais des histoires de gars qui fument, qui baissent, qui boivent. Mais j'ai fini par écrire un récit sur la course.
Ah oui, c'est drôle.
Puis
on s'assoit.
Écoute, ça. Mangeons. Allons-y.
Du bon ragoût.
Ben écoute, merci d'être là.
Ben merci de m'avoir invité.
Patrice, il y a quelques années de ça, tu avais écrit dans le Elle Québec un texte tellement beau, ça m'a fait capoter. C'était une lettre que tu écrivais à tes filles où tu disais que tu avais peur de ne pas être un bon père.
Ouais.
Plusieurs années plus tard, est-ce que tu es convaincu finalement que tu es un bon père ou tu restes avec cette angoisse-là?
Ben, je pense que j'ai fait la meilleure job de... Ben, je la fais encore, là, c'est pas fini. Ça finira jamais, mais je pense que je fais la meilleure job de papa que je peux faire. Naturellement, ils vont avoir des reproches à me faire, comme on en a tous.
Non, c'est leur mère qui font ça.
C'est leur mère qui font ça.
Ben, quand tu es une fille, tu fais des reproches à ta mère. Et quand tu es un gars, tu fais des reproches à ton père. Okay. Ben bon, oui, c'est comme un classique.
Je vais m'en tirer.
Je pense que tu vas être correct.
C'est un bon compte. Mais non, c'est sûr qu'il y a des choses. Des fois, avec le recul, je repense à des affaires, comment j'ai réagi, comment... Mm. Puis je fais, ouais, peut-être pas du poignet les nerfs, là, ou... T'sais.
Mais c'est quoi être un bon père?
Ben, c'est ça, tu sais. Oui. Non, mais d'être présent, de ça, j'ai été très présent avec les trois à leur naissance.
Malgré le fait que tu travaillais comme un fou, comme
oui, mais médias. Étrangement, les trois, quand ils sont venus au monde, c'est dans des périodes qui ont été un peu creuses.
OK.
Fait que j'ai quand même été très, très présent quand ils étaient bébés jusqu'à maintenant, là, tu sais, des fois. Puis là, ben, il y a... Avant Blue Moon... J'ai fini Destiné, puis j'ai eu un 2 ans très tranquille où j'ai pratiquement pas tourné.
Ah oui?
Ça, c'est pas évident pour un comédien.
J'ai eu Blue Moon. On a fait les 2 saisons dans le même été. J'ai fini Blue Moon, j'ai fait une 54, le film de Ian England. Puis en 2016, c'était excellent. Hein? C'était quel beau film.
Ouais.
Et en 2016, l'année 2016, j'ai tourné 4 jours dans mon année.
T'es
j'ai
pas
fait,
sérieux?
J'ai fait 2 jours sur Délateur où il y avait un concept où...
Mais ça, attends. C'est pas des choix, ça.
Non,
ça et, a tombé. Je lisais récemment, donc Paul Doucet dit récemment que pendant plus d'un an, le téléphone sonnait pas.
Mais ouais.
Puis qu'il a fallu qu'il se réinvente quelque chose d'autre, qu'il fasse autre chose. Mais donc, il y a eu des périodes, mais très peu. Bon, oui, toute période de passage à vide, mais t'en as eu quand même quelques-unes.
Mais tu sais, comme 2016, quand tu tournes 4 jours, tu fais comment payer ton hypothèque?
Ben, j'avais un peu de sous d'accumuler. Puis j'ai emprunté. Ben oui, ma blonde, heureusement, elle a un bon travail, puis tout ça. J'ai emprunté sur la marge de ma marge de crédit, tu sais, de maison. Puis j'ai comme pris un montant. Que...
Wow. Mais est-ce que tu t'es dit, bon, ben, c'est fini, là?
Ben, j'ai eu peur. À un moment donné, j'ai fait. Oui, j'ai eu peur. Là, il y a eu Blue Moon 3. Ça a redonné comme un. J'ai eu une autre belle année avec ça. Puis.
Mais t'essayais, tu disais à ton agent, c'est le...
Bon, on essayait, puis mon agent, elle comprenait pas plus que moi, là, tu sais. Elle dit, t'es demandé, mais il y a plus autant d'auditions qu'il y avait. Ça a quand même assez changé. Je pense qu'il y a beaucoup de rôles, mais là, c'est moi qui m'avance un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de rôles qui sont offerts maintenant à des
directement aux comédiens.
Directement aux comédiens. Mais souvent, tu vas te retrouver en audition pour des rôles principaux, mais je dirais principaux secondaires. Là.
Ouais.
Ou sinon secondaires, ou après ça, des rôles épisodiques. Puis là, ben là, l'audition district est arrivée. Puis, ben la bombe, Yannick
Écoute,
Dubois.
La bombe, Yannick Dubois. Écoute, tu as été pendant des semaines et des semaines quand même une des personnes les plus... comédien. Encore? Ben oui, c'est ça. À des personnes les plus détestées au Québec. Puis on se demandait avec Richard, avant que tu arrives, est-ce que tu es victime du syndrome Séraphin? C'est-à-dire que les gens te croisent dans la rue puis ils capotent en pensant que tu es un psychopathe puis tu vas les kidnapper puis les amener dans ton...
Non, je pense pas.
Dans ton sous-sol? Non,
j'ai pas ça. Puis la semaine précédente, le dévoilement que Yannick avait la fille dans son sous-sol, avait Charlène dans son sous-sol.
Ouais.
La semaine avant, c'est la sortie de Sauvage Baby,
En plus.
Mon troisième livre, mon deuxième roman. Je suis allé au Salon du livre du Saguenay. Puis là, les gens venaient me voir. Et j'ai beaucoup vendu de livres. Puis là, ils me disaient, hey, on t'aime assez comme policier. Dans... Puis là, moi, j'étais là comme, oh boy.
La semaine prochaine.
Avant que
ça sorte. La semaine après, c'est passé en ongle. Ça a fini le jeudi soir. On voit la personne descendre dans le sous-sol. Puis c'est Yannick.
Ouais.
Mais dans les salons du livre, après, c'était la folie furieuse. Mais
ça a augmenté ta popularité.
C'est incroyable. C'était incroyable.
Parce que les gens voulaient.
Ben là, ils voulaient me voir, ils voulaient voir Yannick,
c'est très drôle.
Ils voulaient se faire prendre en photo, puis ils achetaient mon livre, puis des gens qui m'achetaient les trois livres. Ça a comme.
La surprise, ce rôle-là était, surprise était tellement forte.
La surprise était forte, puis ça a fait ça. Ça a fait ça au Salon du Livre de Québec, ça a fait ça à Gatineau, ça a fait ça à Sept-Îles, ça a fait ça en Abitibi.
En Abitibi.
Ça, tu sais, ce personnage-là, autant on l'a détesté, autant en même temps, on est fasciné par ces personnes.
C'est ça, un personnage.
En fait, on est, tu sais, Anthony Hopkins dans le Silence des Agneaux.
Ben oui,
Anthony
c'est
Hopkins,
lui qu'on
tient. Il a fait des films avant, là, puis on l'aimait, c'est un bon acteur, il était après. Mais là, après ça, ça a été comme.
Joaquin Phoenix.
Dans Joker. Mais c'est fascinant parce que toi, tu vas vraiment pouvoir dire que ce personnage-là aura été marquant dans ta carrière.
Oui.
C'est un cadeau, finalement, que Luc Dionne t'a fait. Parce que quand t'as commencé à faire Yannick Dubois, tu savais pas, Luc t'avait pas dit, à un moment donné, Luc, tu vas devenir un salaud.
Mais Luc, le savais-tu?
Je le savais.
Luc, il savait, en fait, Luc, il savait qu'il y avait une fille dans le sous-sol. Il savait pas qu'est-ce qu'il allait faire avec ça.
C'est très drôle.
Il y avait plusieurs avenues possibles.
Mais il savait pas c'était qui l'avait enfin. C'est un moment donné.
Oui, il savait. Il dit, le policier, ce policier-là, il y a une fille enfermée dans son sous-sol.
OK.
Mais il te l'a pas dit quand il t'a donné le rôle de Yannick.
Ça, c'est intéressant. Parce que si tu avais su dès le départ que ce gars-là était un psychopathe, est-ce que tu l'aurais joué différemment? Est-ce que tu aurais essayé de montrer? Puis finalement, c'est une bonne idée de ne pas te le dire.
Oui, quand j'ai
commencé à tourner, bon, là, je savais que c'est moi qui avais Charlène dans le sous-sol. Mais on savait pas vers quoi. Puis là, à un moment donné, même il y a une réalisatrice qui a dit, ben là, on dirait qu'il essaie dans les autres textes de te ramener un peu. Ça fait que peut-être qu'elle est là, que c'est une junkie que t'essaies de sauver. Tu sais, il essayait de... Mais là, il y avait tout le temps la fameuse scène où quand j'arrive, je descends, j'ouvre la porte, qu'on me voit, puis que je fais déshabille-toi, puis tourne-toi. Là, tu fais, ouais,
boy
junkie, déshabille-toi, puis mais peut-être qu'ils vont le couper au monde. Tu sais, je savais plus, là. Puis Sophie Desmarais savait pas plus non plus quoi jouer. Puis finalement, ben Luc, je pense qu'il est allé dans son idée, il s'est servi de aussi comment Sophie puis moi on jouait ça. Moi, pour moi, Yannick a toujours été fou amoureux de cette fille-là. C'est pour ça qu'il a fait ça.
Ben non, c'est sûr.
Mais Luc Dionne, je veux dire, j'ai dit à chaque fois, puis il est allé de me demander de l'argent à chaque fois que j'ai dit. Mais c'est incroyable ce qu'il écrit. T'sais, moi, j'ai suivi Omerta. J'avais auditionné pour le rôle de Luc Picard dans Omerta à l'époque.
Ah,
mais je sortais de l'école. Là,
OK. T'étais trop jeune.
Ouais. Mais je me rappelle, j'avais lu les textes, puis c'est une série que j'ai écoutée. J'ai écouté le dernier chapitre aussi sur les moteurs avec Roy. Puis, Bunker, je n'avais suivi un peu, mais je sais pas, c'était peut-être moins dans mon...
Bunker, c'était plus pointu. C'était très bon, mais c'était
Bunker,
plus pointu.
Cirque.
Oui, c'est sur la politique. De la politique, non, puis les allégories et tout.
Aujourd'hui, ça passerait mieux parce que... Avec toutes les séries américaines qu'on a vues de ça, le côté surréaliste.
C'était trop avant-gardiste.
C'était trop avant son temps. Le côté vraiment.
Des têtes de
bizarre,
mouton, je me souviens.
Ouais, ouais,
le monde avait des têtes de mouton. Tout ça.
Des périodes à vide là, que tu as traversées, est-ce que tu t'es dit, bon, il faut que, je sais pas, j'ouvre un restaurant, une brasserie,
ben,
il faut que je fasse autre chose.
Ça
c'est
a tombé.
Fini.
C'est là que j'ai commencé à.
À écrire?
Pas commencé, mais. C'est là que j'ai fait, bon ben, j'avais mon contrat pour écrire Territoire inconnu. Puis, étant amateur de course, moi je suis ami avec José Prévost, la maison de la course à Saint-Hilaire, qui est installée à Saint-Hilaire. Maintenant, il y a à Griffintown et à Sainte-Thérèse, mais. Et à un moment
course
donné.
À pied, là.
Course à pied, ouais. Puis à un moment donné, je vais la voir à Saint-Hilaire, puis je fais, hey, si jamais t'as besoin de quelqu'un, là, comme 2-3 jours semaine, ou. Je n'irais pas sur travailler ici, tu sais. Chaque fois que j'allais courir au Mont-Saint-Hilaire, j'arrêtais, puis m'achetais des bebelles, puis je me disais, ben au moins, tu sais, ça va me faire passer mes journées. Fait que pendant 2 ans, sinon 3, je travaillais là, on and off.
Est-ce que les gens te reconnaissaient?
Les gens me reconnaissaient.
Puis ils devaient capoter.
Mais là, il y en a qui me demandent si tu as boutique, puis je fais, ben, C'est qu'à un moment donné, ce qui est très drôle, c'est que j'ai été, à cause des ultramarathons puis à cause de mon livre Territoire inconnu, il y a plus de gens qui me connaissaient par la course que comme acteur. Parce qu'il y a
bien.
Oui, ben oui, ben c'est les gens qui allaient là.
Les coureurs, ils n'écoutaient pas nécessairement tant la télé.
Ouais.
Puis s'ils écoutaient la télé, ils n'écoutaient pas. Tu sais, je pense que Blue Moon et District 31, c'est vraiment des affaires où là, ça rejoint autant les hommes que les femmes. Tu as
tout à fait raison.
Tu vois, comme dans Destinée, ben, il y a des gens qui l'écoutaient, mais les coureurs, c'était pas une série nécessairement qui allait écouter. Fait que, il y a des gens qui me disent, tu me dis de quoi, toi? Puis là, je suis comédien. Puis, ah, ouais, c'est ça, dans quoi, toi? Puis là, quand ils me demandent, dans quoi t'as joué, ben, quand même une bonne.
Moi, tu sortirais mon CV.
Là,
t'sais,
non, en général, ben là, je ne sortirais pas le CV.
C'est pour le temps. Comme si t'avais le cancer en phase terminale, parce que qu'est-ce qu'il fait ici?
Non, pas, non. Puis moi, je ne l'ai jamais pris comme étant un downgrade, tu sais. Je travaillais dans une boutique qui fait partie d'une de mes passions, là,
ben, c'est ça.
Puis
ça prend quand même une certaine humilité.
Oui, mais c'est le métier.
Le métier est fait comme ça.
Mais tu faisais pas ça pour le cash, tu faisais ça pour t'occuper parce que c'était
ça faisait un petit à côté là, c'est sûr que c'était pas pour l'argent puis
parce que il y a des périodes creuses et des périodes fastes. Le seul problème, c'est que dans l'œil du public, tu es un comédien, il te voit à la télé, il pense que tu es multimillionnaire.
Oui.
Ça c'est
ça, je pense que c'est l'image hollywoodienne des acteurs parce qu'on voit les salaires de. Tu sais, ici, il n'y a pas personne là, qui dit.
Non, il n'y a pas de Julia Roberts.
De toute façon,
au Québec,
si tu dis j'ai fait 25 000 sur mon dernier film, ça punch pas bien, bien. Tandis que Brad Pitt, il a fait 25 millions. Ça fait que c'est sûr c'est que ça. Les gens, ils vont faire. Wow, okay.
25 000, c'est un avant-midi pour lui.
Oui, c'est ça. T'sais. Je pense que c'est une répétition. Il lit le scénario.
Un avant-midi, il faisait 15 minutes d'acting, puis le restant, c'est dans sa loge.
C'est ça.
Mais il y a quelqu'un qui a déjà dit une fois que le budget d'un film américain, juste le craft, là, c'est-à-dire que juste le budget pour la bouffe, le traiteur, ça, c'est le budget pour un film québécois.
Oui.
C'est ce que coûte la bouffe sur un budget américain. Mais c'est ça, là. Tu sais, les prix sont pas comparables.
Sauf qu'est-ce qu'on fait présentement, les films qu'on peut faire ici, avec les moyens qu'on a, c'est sûr qu'on fait pas de la science-fiction, là.
Ouais.
Mais on fait du maudit bon cinéma, on fait des belles affaires avec les équipes qu'on a.
Tu vois,
la télé n'a jamais été aussi bonne au Québec, moi je capote.
J'ai deux filles, 23-21 ans. Celle de 23 est partie en appartement, celle de 21 va partir en appartement à un moment donné. Ils n'ont pas le câble, parce que cette génération-là n'a pas le câble. Ils ont un ordinateur, puis ils se branchent sur Netflix. Ils n'ont aucune idée de la culture québécoise. Vraiment, là. Ils regardent des séries étrangères et des films étrangers, puis...
Ils écoutent OD, puis elles écoutent des trucs.
Ouais, mais c'est ça. Moi aussi, mes filles, c'est la même chose. C'est pareil, moi aussi, je trouve ça un peu décourageant parce que, en même temps, je ne vais pas leur taper sur la tête de dire « Écoutez District, écoutez, tu sais, écoutez des petites affaires. » Écoute la famille Gros là, le matin. Écoute OD. Puis je fais c'est ça. Ce qui est dommage, c'est que on leur dit tout le temps, c'est pas la vie, là, OD, là. C'est pas.
Occupation double. Oui, t'es bon, Richard. OD, c'est occupation double.
Mes filles regardent ça comme deuxième degré, là, pour rire. Là, ils se retrouvent toute une gang et regardent ça. Sauf qu'ils regardent ça, puis tu leur parles d'autres séries québécoises, puis ils sont là. Hein? Gros point d'interrogation. Ils sont pas là pantoute, là.
District, c'est quand même 4 épisodes par semaine. C'est 120 épisodes par année, là.
Ouais.
C'est beaucoup. Il l'écoutait un peu au début par Sébastien, c'est le parrain de Simon.
Ah oui, Sébastien Delorme. Ah oui, c'est drôle.
Fait qu'au début, elle l'écoutait, puis ils ont écouté au début aussi, quand j'étais là. Mais, tu sais, Yannick Dubois, il va au matin, il va le matin, il va le midi, il va le soir.
Ben oui.
Ils dorment dans le sous-sol en plus. Fait que, ils ont Yannick Dubois.
Elle dorment dans le sous-sol, c'est très drôle. Clin d'œil ici aux fans de District 31. Richard, c'est le moment de poser ta question.
Là-dessus, je vais prendre.
Oui, t'es venu le voir.
Mais ça va rendre ma question encore plus ironique. Tu comprends? T'as quoi dessus?
Je la comprends.
Ça rend ma question plus ironique encore.
Attends, tu vas servir du rouge. servir du rouge à Patrice et du blanc à Richard.
Merci.
Okay. Vas-y, on est prêt là. Vas-y, pose-la ta question qui te brûle les lèvres.
OK, mais tout le monde va dire c'est parce que je suis jaloux, c'est sûr.
C'est ta
certain.
Théorie, vas-y, explique-la.
C'est sûr, certain. OK, les gens qui font énormément de sport, là, de façon comme maladive, là. C'est des accros, là. C'est des toxicomanes, là. C'est qu'au lieu de prendre de la coke, là, puis au lieu de baiser 20 fois par jour, puis d'aller aux putes pour danseuses, puis tout ça, là, mais il court, mais à un moment donné, il y a quelque chose de totalement pas sain là-dedans, là. Et c'est ça ma question, voilà.
De pas sain. Ben écoute, oui, moi j'ai fumé. Non, mais écoute, je
ça oui, commence c'est... bien la soirée, hein?
Non, mais c'est parfait. Je suis bien à l'aise avec ça.
Non, mais tu sais, je dis, c'est la seule addiction qui est socialement acceptable. Si tu dis dans un groupe, hey, moi, je prends de la coke 3 fois par jour, les gens vont dire,
ouais.
Ben, si tu dis, hey, moi, il faut tout le temps que j'aille au gym, là, à 3 heures du matin, je me lève, puis je vais au gym, puis je cours tout le temps, les gens vont dire, hey, bravo, c'est un gars en forme. Mais moi, je dis, c'est pas un gars en forme, c'est un gars
en laisse-le répondre.
Mais je suis pas, honnêtement, bon, moi, j'ai fumé pendant pas loin de 30 ans.
Tu fumais
cigarette,
beaucoup?
Je fumais cigarette.
Ouais. Un paquet, deux paquets?
Ben, dépendant, mais je pouvais être rendu à la fin, je fumais des Camels, puis ça, je pouvais me rendre à deux paquets, là. Okay. Ça fait 40 cigarettes assez solides, là. Je fumais pas des Benson & Hedge de même avec le filtre.
Non.
Fait que ça, ma mère fumait ça, puis moi, j'arrachais le filtre, puis je l'accrochais, puis je fumais. Donc, j'ai fumé depuis à partir de 13 ans, là, tu sais. Donc, j'ai fumé, puis c'était ça, c'en était une qui était, il y a pas si longtemps, socialement acceptable. C'était la drogue.
Tout à fait raison. Tout à fait.
Moi, j'ai changé... mon état d'esprit à la fin des années 2000, à 40 ans. Là, quand mes enfants sont arrivés, j'avais 34, Julia, la première. Puis là, ça a été vraiment... Puis une remise en forme aussi, mi-trentaine, là, je me voyais aller. Puis ça a été comme juste... Alors, mets-toi en forme. J'aime la boxe. Je commençais à boxer.
Non, mais remise en forme est une chose.
C'est ça. Mais là, c'est ça. Quand j'arrive...
sport extrême, là.
Ben, c'est ça. C'est que moi, je pense que je le fais le plus sainement possible. Ce qui est intéressant avec les ultramarathons, c'est que moi, il y a une époque
là, où tu peux courir pendant, excuse-moi, là, pour ceux qui connaissent pas le terme ultramarathon.
Un marathon, c'est 42,2 km. Les ultramarathons commencent officiellement à 50 km. Après ça, ça va à 80 km, 100 km, 160 km. Il y en a des 200. Moi, j'ai fait le plus long, c'est 335 km.
Ça veut dire que tu as couru combien de temps?
82 heures. J'ai dormi 5 heures, à peu près.
OK. Ben, ça, c'est comme quelqu'un qui me dit que ça, Richard, j'ai fait 15 lignes de coke.
C'est comme des
Non, mais c'est ça.
15 lignes de coke.
C'est que ça, je le fais. Je ferais pas ça en ville, là. Je suis dans les montagnes, dans l'État de Washington.
Pis c'est beau.
On est au pied du Mont Saint-Hélène.
Mais arrête, c'est beau, c'est 82 heures de course, c'est pas normal.
Non,
c'est
ce que, mais pour, là, se rendre là,
pour se rendre là, c'est... moi, premièrement, j'étais sur mon balcon en 2003-2004. Je sais pas si Julia était au monde, mais en tout cas, je fumais dehors parce que ma blonde est enceinte. Donc, au mois de juillet, il faisait 42 degrés, midi. Je fume mon balcon au coin de Charlemagne et Saint-Joseph. Puis je vois un jogger passer, puis je fais, il est malade, lui. Il court, il midi, on crève. Moi, je fume ma cigarette. J'ai changé ça. En réalisant que, OK, je peux courir une demi-heure, 45 minutes, une heure, deux heures. Puis là, j'ai tranquillement augmenté. Puis là, j'ai vu qu'il existait ces courses-là, de trois marathons. Je vais essayer d'en faire une. Puis je me suis rendu en faire une. Puis de découvrir que... le corps humain
est capable.
Puis notre esprit aussi est capable de se rendre là.
Non, mais essaye donc pis, courir deux semaines de temps d'abord, je sais pas.
Mais ça se pourrait. Parce que moi, traverser le Canada à course, je serais willing de le faire parce que je trouve ça fascinant comment notre corps et surtout notre tête. Parce que quand tu lâches un ultramarathon, puis Dieu sait que je l'ai lâché, puis que depuis deux ans, je suis comme un peu moins dedans. Pis, mais comment notre tête peut surmonter bien des affaires, puis de continuer d'avancer. Puis je suis pas une élite. Tu sais, il y en a vraiment qu'eux autres, ils veulent se placer, puis ils vont courir un ultramarathon pour faire, moi, si je finis dans le top 3, puis je veux gagner.
Mais toi, t'es pas en défi avec les autres.
Non,
t'es en défi
avec
toi-même.
C'est de prendre le temps. Puis ce qui est admirable dans ces courses-là, c'est que, t'as la personne qui va la faire en 60 heures. Moi, je la fais en 80. Puis t'en as un autre qui la fait en 115. Puis qui arrive au bout.
Oui, mais c'est ça, je vais faire mon psy de Saint-Saëns, mais tu sais, quelqu'un pourrait dire que c'est de la rationalisation, étant le besoin, tu te sens cheap si tu cours pas, c'est que tu as remplacé une dope par une autre.
Je sais pas si tu as eu peut-être, mais en fait, tu sais, si oui, j'ai remplacé une une drogue par une autre, je pense que la celle que je prends présentement est meilleure.
Tu sais, les gens qui courent, qui trippent sur les gens qui courent, puis là, entre gens qui courent, ils parlent de leur course, là. Ça, ça me fait penser comme quand tu conduis une Honda Civic, puis tu croises quelqu'un qui est en Honda Civic, qui fait pout-pout parce que tu conduis le même char que lui, là.
Les Jeeps, on se fait des babayes en Jeep.
Et tout pout-pout en Jeep. Tu conduis une Jeep, le gars une Jeep, puis il fait pout-pout, en conduisant le Jeep, pout-pout-pout.
Tu sais, je veux dire, moi, j'aime Léonard Cohen, là. Je rencontre Patrick Delisle-Crevier. Il aime Léonard Cohen. On se fait pout-pout sur la route parce que, hey, as-tu entendu le dernier album de posthume de Léonard Cohen? Je dis, pourquoi il y en a un qui est meilleur que l'autre? Il y en a un qui est non. Je dis, oui, ça s'appelle une communauté de pensée. Il y a des affaires que vous aimez, vous avez en commun, là, je sais pas.
T'sais, on en parlait justement tantôt. Est-ce que tu prends un verre de vin? Est-ce que tu t'aimes manger? Oui, j'aime manger.
Mais ben là, t'es en train de mettre les deux fourchettes dans les pâtes, là. Fait que je vois
oui,
que tu peux...
J'ai pas perdu ça. Puis j'ai aussi, quand j'ai commencé, quand j'ai dit à ma blonde...
Tiens, prends ça.
Je vais faire...
Ouais.
Avec la fourche, la cuillère, ça.
Ça va aller
quand
mieux.
J'ai dit à ma blonde, je vais me rendre à 100 000. Elle a levé les yeux au ciel, puis elle était découragée. Puis... j'ai fait, je te promets, parce que les filles, Julia et Simone étaient plus jeunes, Marion aussi. Puis j'ai dit, je te promets que ça va pas interférer avec notre vie de famille. Parce qu'effectivement, il y a plein de monde. Puis en triathlon, on le voit beaucoup parce que tu as trois disciplines à t'entraîner. Là.
Mais
c'est pas juste. Tu sais, moi, c'est juste courir. Là. Je me lève le matin, puis je vais courir 10, 12, 15, 20 kilomètres, whatever. Puis après ça, je suis revenu, puis.
C'est sûr que tu te lèves à 4h du matin.
Ben, c'est ça. Fait que ça a été une des façons que j'ai trouvées, c'est de faire, ben, pour aller m'entraîner la fin de semaine, au lieu de me lever à 7h avec les filles, de mettre devant la TV, d'écouter des comics, puis après ça, partir courir, puis de revenir à 11h, parce que ma blonde n'aurait pas trouvé drôle. Ben, je partais,
t'as trouvé ça
à 4h.
Ben oui, mais quelle est la différence entre ça et quelqu'un qui mange 150 hot dogs en une demi-heure?
Il sera pas bien.
Oui, il sera pas heureux.
Il sera pas bien.
Il sera pas bien physiquement, mais
lui,
toi.
Ce qu'il veut, c'est être dans le Guinness, là.
Ouais. Non, mais OK, ben, je m'excuse, mais c'est une addiction. Tu dis, ben, c'est correct parce que finalement, c'est bon pour mon corps. Donc, c'est une façon, mais tu sais, c'est quand même une dépendance, là. C'est quand même non, je sais pas, là.
Ben, pas plus que de Tu fais-tu un sport que t'aimes? Sophie, c'est tout.
Richard! Quel est ton sport préféré? Le lever du coude.
Oui, le lever du coude, c'est pas mal. Le manger des pâtes.
Oui, ça, c'est un sport.
Je sais pas.
Non, mais si tu fais pas, t'es pas sportif, c'est correct. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus, là. Mais quelqu'un qui fait un sport qu'il aime, s'il fait de manière... Moi, je pense qu'il y a une manière saine. J'en vois du monde, c'est pas sain. C'est vraiment ça. Il y a des couples qui ont explosé à cause de à cause de la course. Comme il y a des couples qui explosent à cause de la drogue et de l'alcool.
Mais oui.
Ouais, mais toi, il n'y a jamais un moment où ta blonde t'a dit « Là, Patrice, c'est trop. Vas-y, mollo, slack le sport. »
Non. Non, parce qu'elle, elle m'a connu. Elle m'a vu fumer, puis elle m'a connu. Puis elle m'a aimé de même aussi, mais tu sais... Ouais.
Elle trouvait que t'étais pas en forme.
Elle m'a vu d'en prendre des... Moi, je n'ai pris des solides, des brosses là, dans ma vie. Ouais. Là, pas à peu près. Là.
Mais elle aime mieux le Patrice qui prend des brosses de sport que prendre des brosses d'alcool.
Ben parce que je prends des brosses de c'est pas des brosses de sport, tu sais,
c'est
ponctionnant, image. Je sais, mais tu sais, c'est ponctuel de dire. Puis j'essaie de pas l'imposer. Il y a des courses quand on est allé dans l'État de Washington faire la course, ça s'appelle le Bigfoot 200 000. On est allé en vacances de famille. Puis moi, je faisais tout le temps après ça, je faisais des conférences. Puis je disais, ben, j'ai couru pendant 82 heures. Puis après, ben, les deux autres semaines après, ben, ma blonde, mes filles m'ont poussé en chaise roulante. C'est pas vrai. Pas vrai. Deux jours après, on était au Mont Hood, on se promenait dans le bois, puis j'étais correct. J'avais.
Mais reste que ça magane quand même.
Ben, ça, honnêtement, ça, j'étais fatigué, mais.
Non, on a vu des images de toi, tes pieds avec des ampoules, puis tout
oui,
ça.
Oui, mais
là.
Ça dure deux jours, là.
Mais c'est tout à fait normal de courir pendant 82 heures.
Absolument, non.
Mais non!
Non, je sais que c'est pas normal. C'est pas normal, mais.
Pour moi, c'est
ponctuel.
Quelqu'un qui passe sur une crise de brosse pendant trois jours.
C'est
là.
Ponctuel, là. Oui, mais c'est une brosse. Ben, écoute, je te dirais comment...
Mais c'est pas parce que c'est bon pour ton corps et tout ça, que c'est moins damageant, que c'est pas une brosse, c'est une brosse
de
course.
Moi, Richard, je vais jamais dire à quelqu'un, tu vas te remettre en santé en courant 160 km, tu vas te remettre en forme en courant 160 km, 200 km, 300, 400, 1000, ça te met pas en forme. Faut que tu sois en forme pour le faire. Mais c'est pas ça qui va te mettre en forme, ça va te maganer. Ouais. Sauf que Il y a des gens qui vont mettre je sais pas combien d'années en thérapie pour penser à eux puis tout, qui vont suivre des stages de yoga puis de ci puis de ça puis qui vont puis regarde fine
toi c'est ta thérapie
t'es avec toi pendant moi là quand je fais ces courses là j'aime pas ça courir avec les tu sais des fois je cours avec des chums tout ça puis on jase puis mais dans ces courses là j'aime ça être tout seul j'aime ça être dans ma bulle quand j'ai fait cette course là la plus grosse là.
Le Bigfoot,
au départ, on était 67, on a fini 47. Mais j'ai été tout seul pendant des heures et des heures, puis j'étais tout seul avec moi, puis tu rentres profondément en toi, puis je suis pas ésotérique du zéro, là, tu sais, je suis pas, mais moi, ma thérapie, c'est ça, là, tu sais, c'est de me retrouver dans le milieu sauvage, puis de...
Si pour toi, lui, ça te fait du bien, puis c'est ça qui te fait triper, et tout ça.
OK, je vais te faire une comparaison, OK? Moi, pendant des années, je faisais rien. Je faisais pas de sport, j'ai pas une fille sportive. Là, maintenant, j'ai un entraîneur, je m'entraîne 3 fois par semaine. Au début, on faisait des petits trucs, je levais des machins, je courais sur place, puis tout ça, bon. Et à un moment donné, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'aimais ça et pourquoi je le faisais 3 fois, des fois 4 fois par semaine. À chaque fois que mon entraîneur me dit « Sophie, tu vas faire ça, tu vas courir, mettons, tu vas bencher 60 », je lui dis, mais non, je suis pas capable, c'est impossible. Mais la seconde où je prends la barre et qu'il y a 60 livres dessus et que j'arrive à la monter, ben, je peux-tu dire que la petite Sophie à l'intérieur, elle dit, OK, la semaine dernière, t'aurais pas été capable, cette semaine, t'es capable. Puis la semaine prochaine, peut-être, ça va être 65. Peut-être, ça va juste être 60, ça va être exactement la même chose, mais c'est la première fois de ma vie que je me donne des défis physiques. Je me suis toujours donné des défis intellectuels ou des défis relationnels ou toutes sortes de défis. Là, je me donne des défis physiques et à chaque fois que je monte une petite étape, peut-être pour toi, bencher 60, c'est rien du tout, là.
Non, mais pour c'est ça, c'est chacun.
Mais c'est que il y a 3 mois, j'étais même pas capable de soulever un sac d'épicerie, puis là maintenant, je suis capable de me mettre sur le dos puis de soulever un poids. C'est juste un défi par rapport à toi-même. Tu penses que t'es pas capable de le faire et la seconde où tu le fais, moi, je suis super fière de moi quand je le fais. Fait que toi, je me dis, c'est peut-être juste ça,
ben
c'est de
fait,
dire...
En fait, c'est comme... Moi, ça a été aussi, au départ, un besoin d'aventure. Puis comme j'ai grandi à la campagne, puis tout ça, quand j'étais jeune, moi, je partais avec ma carabine à plomb, mon chien, j'allais dans le bois, je restais là, moi, on restait sur le bord d'un lac. Fait que l'été, t'avais les estivants, les fils de médecins, puis tout ça, qui... Puis après ça, ben j'avais des amis, eux autres, qui restaient dans d'autres, un petit peu plus loin, dans des maisons à l'année, plus loin. J'avais d'autres amis qui restaient dans les parcs de maisons mobiles, mais j'ai grandi seul à la campagne. Puis j'étais tout le temps en aventure, moi. Je partais avec mon petit couteau de chasse, ma carabine à plomb, mon chien, puis j'allais dans le bois, puis tout ça. Et là, à un moment donné, j'avais une période où j'étais moins heureux dans ma carrière, puis ils m'ont mis à me remettre en forme. Puis c'est là que la course a comme mergé, puis que pour moi, c'est là que ça m'a fait vraiment du bien. Et je dis souvent, il y a des gens qui font, du monde qui vient de me parler, puis dit « Ouais, toi, tu cours pour vrai, puis tout ça, puis... » Moi, j'ai juste fait un petit 5 km. Puis là, je me choque. Je fais non, là, vous allez m'arrêter ça, les 5 km. Puis les fois que j'ai fait des conférences là-dessus, sur la course, je disais, il y a de pas de. Même moi, je le disais, que t'as couru combien amateur? J'ai fait un petit 10. Non, c'est pas un petit 10. J'ai couru 10. Couru 11. T'as levé, t'as benché 60.
Voilà.
Mais j'étais pas très sportif, moi, à l'école. J'étais pas.
Non?
Pas tant, non? Ben, je me rappelle au ballon chasseur, là, je voulais jamais jouer. J'étais tout le temps le gonnet en premier, tout le temps, en première, deuxième, trois. Il a fallu qu'à un moment donné, comme je restais à campagne, tout ça, j'avais pas de. À un moment donné, j'ai fait du karaté en première, deuxième année. Puis je restais dans un petit village. Puis le prof, à chaque fois qu'on venait de passer notre ceinture, il changeait de prof. Fait que c'était une autre école de karaté pendant 2 ans. Puis à un moment donné, ben, quand il y en a un qui s'est installé, moi, j'ai fait comme ça me tente plus, tu sais. Mais finalement, moi, j'ai fait de la planche à voile, du ski nautique, j'ai fait l'hiver, j'ai fait du ski alpin, du ski de fond, de la raquette. Mais à l'école, là, je me rappelle un moment donné, je pense que c'était en 5e année, il a fallu que je pète une crise de larmes à mes parents. D'un sport, j'étais jamais pris d'un premier. Ballon sur la chasseur, on s'installait, paf, on recevait le ballon en pleine face.
C'est très drôle.
J'étais pas bon, j'étais pas... Mais j'étais pas super sportif, mais j'avais un physique quand même, tu sais, comme... J'étais relativement en shape pour sans faire grand-chose.
Tu dis ton père, ta mère, t'es adopté. Donc,
oui.
Donc, et quand tu l'as su, t'es adopté?
J'ai toujours su. Hein? J'ai pas de souvenir. Le plus loin que mes souvenirs remontent, là, on restait à Charlebourg, puis bon, tu sais, des petits flashs de 3-4 ans, là, mais toute mon enfance, mon adolescence, jusqu'à il y a pas tant longtemps, je dirais, jusqu'à il y a 15 ans, 16 ans, non, ça a toujours été pour moi mes parents, puis ils sont encore vivants. Là,
mais on disait tout à l'heure que donc depuis un an et demi au Québec, on peut les adoptés peuvent savoir le nom de leurs parents biologiques. Mm-hmm. Si demain matin on te dit Patrice, tu vas rencontrer ton père, puis tu vas rencontrer ta mère biologique, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
Honnêtement, j'ai rien à leur dire. J'ai pas juste. Ça me ferait plaisir de les rencontrer, mais j'ai rien de formidable ou de grave ou de...
Donc, ça veut dire que ça n'a pas été un vide?
Ça n'a pas été... Ben, en fait, honnêtement, je pense que j'ai toujours senti... J'ai un vide en moi. Ça, je le sais. Puis, souvent, je dis j'ai un trou dans le cœur.
Ouais.
Il y a quelque chose, il y a un espace vide qui se comble pas, que j'ai l'impression de pas être aimé, que je serai jamais aimé. J'ai tout le temps l'impression que les gens, ils font, ouais, ils disent qu'ils m'aiment, mais c'est pas vrai, là. Même par ma blonde, mes enfants, là. Je lis cette affaire-là. Puis ça, je pense, si je fais de la psychologie à Saint-Saëns, ben, j'ai toujours mis ça sur le compte que du moment que je suis venu au monde, la personne, puis là, les raisons, ça me regarde pas, c'est sa vie à elle, puis elle a fait, j'imagine, ben, en tout cas, pour ça s'avère un bon choix, ouais.
Pour elle.
Mais, ça reste que j'ai été abandonné, tu sais. Mm. Et cet abandon-là...
Mais cet abandon-là, t'as pas envie? Mettons que ta mère est là. Il me semble, je sais pas, moi, je suis pas adoptée, mais il me semble que j'aurais envie juste de lui demander pourquoi. Juste
oui,
ben, un
connaître,
mot,
oui,
un
connaître,
mot.
Connaître l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, est-ce que... Tu sais, il y a plein... Tu sais, tu regardes ça, peut-être que... Ça peut être quelqu'un, une femme qui a été violée, qui est abusée. Je suis peut-être le fruit d'un inceste. Je suis peut-être juste une aventure comme un condom qui a pété en arrière d'un Chrysler, je sais pas quoi, en 68. 67.
Tu sais, mais t'imagines, t'aurais pas eu peut-être la vie que t'as eue, là. Tu sais, tu serais peut-être, je sais pas, puis j'ai rien, je lève pas le nez sur aucune job, là. Toute job est importante, puis il n'y a pas une job plus importante que d'autres, là. Mais tu aurais peut-être eu un job totalement anonyme qui te fait chier, que tu me plaques.
Oui, j'aurais peut-être été élevé, je sais pas où, ailleurs.
Tu sais, c'est ça. Puis
parce
là,
que
là,
le trou dans le cœur dont tu parles, c'est peut-être aussi quelque chose qui t'aide comme comédien.
Mais c'est sûr qu'il y a une sensibilité qui est là, puis comme être humain aussi, tu sais. Moi, t'arrives au bout de quelque chose.
C'est une question bizarre, je vais te poser, mais je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. Parce que je sais pas c'est quoi t'adopter, mais est-ce que tu aurais l'impression de trahir tes parents, de rencontrer tes parents biologiques? Moi, mettons, là, si j'avais adopté un enfant jeune, puis je l'aurais élevé, puis je me sentirais menacé qu'il veuille voir ses parents biologiques. Je dirais, pourquoi? C'est quoi d'un coup?
Ben, en fait, c'est très... Pas. Mon père, je sais pas, parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça, lui. Puis moi, en fait, je pense qu'on n'a jamais parlé. Mais ma mère, depuis mon adolescence, a toujours dit, si tu veux...
Ah oui.
A toujours été ouverte à dire, si tu veux les retrouver, il n'y a pas de problème, puis sens-toi à l'aise, puis ça a toujours été... Puis c'est moi qui faisais, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas, pourquoi?
Mais tu sais, c'est particulier parce que, comme Richard disait, moi, je ne suis pas adoptée, Richard n'est pas adopté, donc quand bien même on essaie dans notre tête d'imaginer ce que c'est être adopté, on peut pas, là. On pourrait faire semblant, mais on ne sait pas ce que c'est. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas du tout été adoptés, puis qui ont des parents de marde,
oui.
Qui n'ont pas bien pris soin d'eux, qui les ont ignorés, qui les ont pas aimés, qui les ont pas... Alors, ça veut dire quoi, être parent? Être parent, ça veut dire donner de l'amour, donner de l'attention, être présent. Fait que la personne qui est...
Il y en a qui sont pas aptes à l'être.
Il y en a qui sont pas aptes à l'être. Non, mais ce que je veux dire, c'est que après... Trouver ton parent biologique, c'est juste trouver la personne qui, physiquement, t'a porté dans son ventre, mais la personne qui est ton parent, c'est la personne qui t'a aimé et qui a bien
pris soin de toi. Qui t'a protégé, qui t'a protégé, qui t'a aimé, moi, j'ai manqué de rien dans ma vie. Là. Peut-être que j'aurais manqué de plein d'affaires, peut-être pas, peut-être que, tu sais, on le sait pas.
Mais en même temps, tu vois, le fait que t'es une figure publique, si ta mère était au Québec, ben peut-être qu'elle te verrait puis qu'elle dirait « Ah, c'est peut-être mon fils. »
Il est arrivé une histoire comme ça avec une dame, je n'aimerais pas de la région, mais j'ai fait l'émission avec José Limito Michaud là, sur, dans le train. Puis j'en parlais de ça. Puis c'était la première fois, je pense, que j'en parlais ouvertement. Puis à un moment donné, je reçois une lettre. En fait, je m'envoie à la boulangerie pas loin de chez moi. Puis la boulangère, elle me donne... Il y a une madame qui a déposé ça pour... Elle savait que je restais... Puis écoute, j'ai rencontré cette dame-là qui m'a raconté son histoire. Puis elle a pensé qu'elle était ma mère. Pour plein de temps, elle disait que je ressemblais à son frère qui était décédé. Puis en tout cas, ça a tout... Puis ça a duré comme...
Elle y croyait vraiment?
Elle a été convaincue. Puis là, moi, j'étais assez troublé. Mais on s'est comme rencontrés. On se rencontrait en cachette parce qu'elle était... Elle avait donné un enfant en adoption. Puis... En 68. Tout concordait. Puis elle était tombée enceinte d'un homme qui était marié. Puis cet homme-là, finalement, elle a donné l'enfant à l'adoption, mais cet homme-là, il a laissé sa femme, puis il est revenu vers elle, puis là, elle était avec elle. Fait qu'elle dit, si c'était mon fils, je suis encore avec ton père. Fait que là, moi, j'étais comme, wow,
c'était
bouleversant. Puis là, on a fait un test de
ah ouais.
Puis écoute, okay. On se rencontrait dans un stationnement de c'était l'hiver, puis on se rencontrait dans un stationnement de IGA ou je sais plus trop. Puis quand on a eu les résultats, j'étais allé la rejoindre, puis on était dans son auto, puis là elle a ouvert l'enveloppe. Hey. C'était pas ça.
Ah,
mais là, j'étais triste. J'étais tellement triste pour
toi
elle.
Ou pour elle?
Pour elle.
Pour elle.
Mmh. Elle, tout. Moi, pour moi, c'était OK. Je me retrouvais avec comme quelque chose. Mais elle, c'est comme tout son espoir était là.
Oh.
Puis là, j'ai vu dans son cas, tout s'est effondré. Là. Je l'ai vu dans son regard.
Quoi?
J'ai vu dans ses yeux toute la peine immense que cette femme-là a portée toute sa vie. Oh. De penser...
Enfin,
elle était à une enveloppe de dire quasiment, ben, je ne sais pas si elle aurait dit « je m'excuse » ou à une ouverture d'enveloppe de que sa vie change, de retrouver réparer sa grosse, je sais pas comment l'exprimer là, au contraire ça a fait comme ça s'est tout écroulé, ça s'est tout
refait. Est-ce que tu l'as revu après?
J'ai dit si vous voulez qu'on se parle, puis elle, pour elle c'était comme non, on a plus de raison, tu sais, pour elle c'était...
Tu venais de briser. L'enveloppe venait de briser son rêve.
Le test venait de briser.
Écoute, c'est un scénario de film.
Puis moi, je suis reparti, triste pour elle. Ça changeait pas tant d'affaires, malgré le fait que j'ai été bouleversé de toute cette affaire-là pendant 2-3 semaines, tu sais, à faire comme... Mais tu sais, elle montrait des photos. À un moment donné, elle m'a montré une photo d'elle jeune, puis... Moi, je voyais, puis elle voyait de mes... Tu sais, à un moment donné, on veut voir ce qu'on... ce qu'on veut voir aussi.
Tu
es dans un...
Ouais. On se construit comme être humain par opposition à nos parents. Tu sais, c'est sûr qu'à l'adolescence, tu te rebelles, puis si ton père dit noir, toi, tu vas dire blanc. Si ton père dit blanc, tu vas dire noir. Tu sais, on se construit par opposition à nos parents. Mais tu sais, ça doit être différent, se construire en opposition à quelqu'un qui n'est pas ton parent biologique. C'est parce
que ça devient tellement... Tu sais, j'ai vécu avec eux autres tout le temps. Tu sais, j'ai pas... à partir de 3 semaines. Fait que pour moi, toute ma vie, j'ai toujours été, tu sais... Ça fait que ça a toujours, pour moi, ça a toujours été mes parents.
Boxer la nuit.
C'est magnifique.
C'est un tabarnouche de bons titres.
Comment tu choisis les titres?
Boxer la nuit, j'avais écrit un poème, je pense, en 95, 96, puis j'avais mis ça dedans. Le titre du livre... était long de même. Je sais pas comment, en hauteur, en longueur, mais c'est une couverture. Puis, quand je l'ai écrit, j'avais ce grand titre-là qui était vraiment pas bon, mais qui, pour moi, qui se retrouve vers la fin du livre, mais qui est une phrase, en fait. Et quand j'ai rencontré Joanne, j'y avais envoyé le manuscrit, elle a accepté, puis là, ben, j'allais la rencontrer la première fois pour les corrections puis des petites affaires. Et on cherchait toujours, on l'avait dit, on cherchait un titre. Puis écoute, de même, dans le bureau, ça m'est revenu, ce petit boxer la nuit.
C'est très beau.
C'est magnifique.
Puis là, j'ai écrit ça sur un petit papier, elle était au téléphone, puis j'ai reviré ça, puis elle a fait...
Puis quand le titre est juste, là, tu le sais tout de suite. Tu le sais tout de suite que c'est le bon titre. la championne des titres dans l'histoire de la littérature mondiale, c'est Françoise Sagan.
Ben oui.
Qui avait les meilleurs titres. Tout le monde, tous les gens en littérature le disent. C'est,
bonjour elle avait, Tristesse. Elle avait ça a des commencé avec
Bonjour Tristesse. Incroyable.
Mais ça, un titre de livre. Ouais. C'est comme... Ça. C'est ça qui va t'accrocher, tu sais. Moi, j'ai Philippe Gian, entre autres, j'aime ses titres parce que des fois, il sort des affaires. Des fois, c'est comme tiré par les cheveux un peu, mais c'est intriguant, c'est le fun, il y a quelque chose de
le
bon.
Gars,
il,
est-ce que tu l'as rencontré?
Philippe, non.
Non?
Je l'appelle Philippe. Je sais pas si...
Est-ce que tu serais déçu, tu penses? Si
faut-il rencontrer ses idoles?
C'est ça que j'allais dire. Est-ce que... Je sais pas. J'aimerais ça le rencontrer par hasard, puis prendre un verre avec, puis...
Mais c'est drôle parce que ce que tu racontais tout à l'heure, que quand ton personnage dans District 31 est devenu, on a découvert que c'était un vilain, ça a suscité de l'intérêt pour tes livres. Mm-hmm. Fait que le fait que, justement, si t'étais Patrice Godin, plombier, ben peut-être que les gens n'auraient pas le même intérêt pour tes livres. Donc, ça...
Ben, c'est sûr, tu sais, puis... Mais ça, le autant j'ai pu l'avoir, puis que des fois, j'allais encore au niveau... au niveau de l'acteur, le sentiment d'imposteur, autant comme auteur, puis je me considère pas comme un grand auteur, là, loin de là, c'est pas ça mon propos, mais autant je l'ai pas. Mais quand j'ai commencé, quand je suis arrivé dans le Salon du Livre avec Territoire inconnu, Boxer la nuit, un peu moins Sauvage Baby, parce que là, rendu à troisième roman, je te dirais que Boxer la nuit, c'est pas mon meilleur, mais bon, c'est mon premier roman, puis j'ai essayé de quoi, puis... Je le ferais différemment aujourd'hui, mais bref, quand je suis arrivé là, on faisait, tu sais, t'envoies des auteurs qui étaient assis à côté d'un auteur qui est à son 18e roman, puis qu'il n'y a personne, puis que là, t'as l'autre petit gars qui s'assoit à côté, qui passe à la TV, puis qu'il y a un line-up. Ben, c'est sûr que non, mais je le sais. Mais
tu te sentais mal à l'aise?
Ben, non, moi, je me sentais pas mal à l'aise. Étrangement, parce que j'ai pas le... Parce que je le sais qu'il y avait l'écrivain en moi, puis qu'il existe, puis qu'il y a le talent qu'il y a, mais que je... Comme écrivain, j'ai beaucoup moins de difficultés à dire, ben moi, je pense que je suis un écrivain plus qu'un acteur. Mais je l'avais pas, ce
actuellement, tu penses que c'est plus un écrivain qu'un acteur?
Ben, j'ai comme... Je me sens moins mal à dire. Je suis pas plus l'un que l'autre, mais...
T'es plus sûr de ton talent?
J'ai plus sûr de mon talent d'écrivain que d'acteur. J'ai tout le temps dans le
doute. Ça, c'est intéressant.
Je doute toujours quand j'écris, là. C'est pas... Mais je sentais le regard des autres, tu sais. Puis je faisais, puis à un moment donné, je parlais avec quelqu'un qui est dans le milieu, tu sais, puis on est devenus amis, puis on jasait, puis je disais, je le sens. Puis elle dit, ouais, je le sais, mais elle dit, tu sais, ce que t'écris, c'est bon. Puis je dis, oui, puis je dis, c'est correct. Mais comme acteur, le même regard des autres, j'aurais capoté, j'aurais pas été bien.
Et qu'est-ce que tu penses, Mickey Rourke, Robert Mitchum, il y a quelques comédiens comme ça qui disent qu'ils ont eu honte d'être comédiens, parce qu'il disait que c'était pas viril. Tu t'en vas là, tu te fais maquiller, tu te fais coiffer, puis c'est un job qui sert à rien, puis tout ça. Non, mais Mickey Rourke, tu sais, c'est pour ça qu'il a fait de la boxe, Mickey Rourke,
ouais,
à un moment
Mickey,
donné, pour se sentir homme, parce qu'il disait, je m'excuse, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi, mais c'est un métier de gonzesse. Ouais. C'est ça qu'il disait. Puis que ce métier qui donnait... Puis Robert Mitchum aussi avait un mépris du métier d'acteur, et Dieu sait que c'était un grand comédien. T'en penses quoi de ça, toi, qui es un gars physique?
Ben moi, je pense pas que... Je vais pas dire que c'est un métier de gonzesse puis que c'est pas viril. Moi, je me fais maquiller, puis ça me fait rire, ça me dérange pas. Je pense que les problèmes de Mickey remontent à plus profond. Il a pas été adopté, mais il aurait peut-être dû.
Mais tu vis dans le Fighter, il est bon, maudit.
Ouais, mais moi, c'est un de mes acteurs préférés.
Il est hallucinant.
Tu sais, quand il a fait, c'est ça, le film sur la lutte, là, j'ai dit, God, man, il revient, puis, tu sais, on a tous pensé ça, mais non, c'est pas revenu, il est tombé.
Ouais.
Mais moi, je l'aime en gars, je le suis sur Instagram, puis il pose des à côté.
T'es sérieux?
Oui, je le suis.
Ah, je savais pas qu'il était sur Instagram. Ouais,
depuis 9 and a half weeks, là, il y avait un charisme.
Ah, il était incroyable.
Mais
je pense que moi, ce qui est arrivé avec lui, c'est ça, c'est qu'il y a eu une enfance de marde. Lui, c'est d'ailleurs mon personnage dans Boxer la nuit, c'est un peu inspiré de l'histoire avec Mickey Rourke.
Oui.
C'est que sa mère, il vivait à New York et à un moment donné, sa mère, puis a fait, on s'en va en Floride, puis papa va venir nous rejoindre, puis il est jamais venu. Fait que la prémisse un peu de Boxer la nuit, c'est mon personnage, il vit ça. Lui, c'est Forestville puis Montréal, là, c'est pas pareil, mais son père, il vient jamais les rejoindre. Et Et quand il a commencé dans le métier, c'était un talent brut à la Brando, à la James Dean. Ouais. Puis là, ils ont tous déroulé le tapis rouge. Puis je pense que ça l'a rendu fou.
Comme Val Kilmer.
Val Kilmer aussi.
Val Kilmer. Il était dans le rôle de Jim Morrison.
Oh, il était cœur.
Dans le film de Stone. Il était extraordinaire. Puis il est complètement fucké. Là.
Mais c'est un métier qui peut rendre fou. C'est-à-dire que...
Mais c'est parce que ici, c'est que... Ici, il y a des gens qui peuvent, certaines personnes, mais c'est quand même assez rare. Là,
c'est un petit showbiz ici.
C'est un petit milieu, puis quand tu fais chier, là, je m'excuse avec les mots, mais
tu te fais ramener
ça ramène vite.
Ouais.
Puis, il y a aussi le fait que il n'y a pas grand monde qui débarque ici, puis qui va faire un hit, puis que tout le monde... t'en as pas de loge, on n'a pas de Winnebago avec le dernier PlayStation, puis... Puis je me colle pas une masseuse lors du dîner, puis tu sais, là j'exagère.
C'est peut-être
là,
mieux parce que.
Non, c'est peut-être mieux, mais.
Ouais, c'est ça.
Mais.
Tu voulais lui poser une question avant qu'il arrive.
Oui.
Sur
les cheveux
blancs.
Quand on vieillit, quand on est une femme comédienne et qu'on est reconnue comme étant une belle femme, on trouve ça difficile de vieillir à l'écran parce que les charmes et tout ça, c'est différent. Puis il y en a des plus jeunes qui montent, puis nous, on est moins. Et là, je me disais, toi, comme garçon, bel homme, avec un physique, tu sais, tes côtes, puis tout ça, bon...
OK, je m'en vais. Je vais
tout seul. Est-ce que tu trouves ça difficile de vieillir à l'écran?
Comme personne, comme homme, comme être humain, je me trouve bien plus intéressant là
qu'à 20
ans. Je l'étais qu'à 20 ans, qu'à 30 ans. Même 40 ans, je commençais à être un adulte, un petit peu plus.
Ouais.
Mais non, ça me fait pas... c'est ça, puis pour les filles, je trouve ça dommage parce
que... C'est plus dur pour les filles.
C'est plus dur, puis je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas de raison que ça le soit.
Ouais. Parce que tu pourrais pas être une femme comédienne et avoir les cheveux blancs comme toi.
Mais tu vois, ma blonde, elle, on s'est connue, elle avait les cheveux un peu comme toi ou un petit peu plus roux, mais elle a blanchi depuis longtemps.
Oui.
Et depuis 2 ans, à un moment donné, elle était tannée de se teindre les cheveux puis tout. Puis elle s'est dérangée, j'ai dit go, vas-y.
Ah ouais?
Puis là, elle se laisse, elle se fait des mèches un peu puis tout ça, mais elle laisse aller vers la couleur naturelle de ses cheveux. Puis, mais pourquoi pas?
Ouais.
Ça, c'est la perception des gens, c'est les ce que je veux dire par là, c'est que ça devrait pas.
Ouais.
Ça devrait pas exister, ça.
Mais toi, tes cheveux blancs, ça a pas été un moins, ça a été un plus.
Peut-être. Je sais pas si c'est un plus. En fait, non, parce que là, si je me vois blanchir de même, là dans le district, j'ai été chanceux, mais tu sais, les enquêteurs de police, là, je vais avoir 52. Là, à 52, il y a une maudite gang qui prennent leur retraite. Là.
Mm.
Fait que dans les séries, s'ils font une nouvelle série avec un enquêteur de police, ils vont pas faire, ben, Godin, oui, OK, mais... Il est rendu vieux un peu, là. On va en prendre un de 35 ans, plus fringant. Hein, tu sais ça des. Ouais, c'est dur à. C'est dur à. Moi, est-ce que j'aurais encore des roses si, mettons, je prenais 150 livres?
Bonne question.
Ben, t'aurais d'autres
roses. Très bonne question.
Oui. J'aurais d'autres roses. Les autres acteurs aussi.
T'aurais pas des rôles de policier, t'aurais des rôles de gardien de sécurité.
Oui, genre.
Les gardiens de sécurité sont toujours un peu rondouillets.
Tu sais, que tu rentres dans une banque, puis le gardien de sécurité est en train de dormir, puis il pèse 350 livres, puis il n'a jamais tiré du gun de sa vie, tu te sens vraiment en sécurité.
Oui, il n'y a pas de problème. Tu fais comme...
Aucun problème. Du gars-là va me...
Si ça rentre avec une mitraillette,
du gars-là va me protéger.
On est en sécurité. Le hey, fils Patrice, de vraiment, Rambo, ça a été un grand plaisir.
Très agréable. Merci à vous.
Très sympa. Merci. Alors, demain matin, Richard et moi, on commence à s'entraîner pour aller faire un kilomètre.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.
Tu dis qu'il était cut. T'as jamais dit ça de moi. T'avais jamais dit mon chum est cut.